Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
À suivre, vos réactions sur le processus de paix en Centrafrique après la signature lundi à Rome sous le parrainage de la communauté catholique Sant'Egidio d'un accord entre le gouvernement et la quasi-totalité des groupes armés que compte ce pays. 13 des 14 groupes rebelles s'engagent sur ce papier à un cessez-le-feu immédiat. Ils s'engagent également à lever les barrières illégales pour permettre la libre circulation des personnes et des biens. Je vous rappelle tout de même que ces groupes contrôlent plus de 60% du territoire. Ils s'engagent également à désarmer, même si aucun calendrier n'est prévu pour ce processus. Et en contrepartie, car oui, évidemment, il y a des contreparties, le gouvernement, écoutez bien, promet notamment d'entamer une consultation auprès de l'ONU pour lever les sanctions visant certains responsables de ces groupes. Alors certes, ce n'est pas le premier accord de paix qui est signé, qui est conclu en Centrafrique. Les négociateurs de Sant'Egidio, eux, se disent optimistes. Pourtant, hier, au moins 40 personnes ont été tuées dans les affrontements dans la ville de Breya. Cet accord est-il déjà caduc? Nous avons évidemment envie de vous entendre. Vous qui êtes sur place, dites-nous si la paix vous semble tout de même à portée de main. 33 9 693 693 70. Je le rappelle, vous nous contactez à Paris, nous notons vos coordonnées et nous vous recontactons évidemment dans les minutes qui suivent. Benjamin, bonjour.
Oui, bonjour monsieur Juan Gomez.
Vous nous appelez de Bangui, vous aviez envie d'exprimer votre colère ce matin après la signature de cet accord lundi.
Oui, monsieur Juan Gomez, je pense que les autorités centrafricaines, je connais pas, je sais pas exactement le plan qu'ils ont pour peut-être laisser les groupes rebelles exterminer le peuple centrafricain, mais nous sommes pas heureux que ces groupes ne vont jamais respecter leur signature. Vous vous souvenez qu'ils ont signé l'accord le lundi, oui. Et dès le mardi, il y a eu plus de 40 centrafricains qui sont tués dans la région de Béa. À partir de ce moment, tout ce que les autorités sont en train de faire en prônant la voie du dialogue pour arriver à la paix ne va jamais aboutir. Donc, il est question maintenant d'utiliser la force contre les forces rebelles. Et vous êtes sans ignorer que la MINUSCA est là pour appuyer l'État centrafricain. Donc, si l'État prend l'initiative de concocter un plan de force pour essayer de réduire ces groupes rebelles, à partir de ce moment, la MINUSCA peut être réquisitionnée et mettre en action cette action pour que vraiment ça soit le résidu des groupes rebelles qui soient nettoyés par le DDR. Mais le DDR n'a jamais produit de résultats dans ce pays.
Donc Benjamin, vous êtes en train de nous dire que l'accord de lundi ne servira à rien, que tout le processus mis en place depuis de nombreux mois pour désarmer, démobiliser et réinsérer, le fameux DDR cité à l'instant, tout ça ne sert à rien. Il faut utiliser la méthode forte, le désarmement. C'est ce que vous nous dites, Benjamin.
Oui. Moi, je pense que c'est seul ce qui peut marcher. Même vous vous souvenez qu'en Afrique, partout où il y a eu ce genre de situation, c'est généralement lorsqu'une partie a pris le dessus sur l'autre qu'on essaie d'arriver à la paix. Même en Côte d'Ivoire, vous vous souvenez de l'Angola, même la Colombie, même la FARC, parce que la FARC était diminuée militairement, que la FARC était obligée d'accepter un plan de paix.
Oui. Donc, mais chez nous, ici. Bon, enfin, il n'y a pas eu de. Par exemple, vous citez les FARC, vous prenez des exemples à travers le monde, c'est intéressant, mais enfin, les FARC ont fini par accepter de se réunir autour de la même table à Cuba avec le pouvoir pour trouver un accord de paix. Il a fallu des années de négociations, ils y sont parvenus. Il n'y a pas eu de désarmement par la force des guerrilleros colombiens. En tout cas, Fofana sur Facebook partage votre analyse, Benjamin. Il estime que la paix en Centrafrique ne passe que par un désarmement forcé de tous les groupes, car les négociations ont toujours échoué. Depuis combien d'années vivons-nous dans cette situation de chaos, nous dit cet auditeur. 33 9 693 693 70. Bonjour Timo Léon. Vous êtes sceptique, vous, après la signature de cet accord de paix?
Oui, je suis sceptique pour deux raisons. Parce que maintenant, ce n'est pas parce qu'on a changé régulièrement de capitale depuis 20 ans. On a eu Libreville avec Omar Bongo, paix à son âme. avec Sassou Nguesso à Libreville, à N'Djamena avec Déby, à Nairobi avec je ne sais pas qui, et maintenant on nous parle de Rome. Alors, est-ce que c'est en changeant de capitale que ça va donner l'espoir? Moi, je pense pas du tout. Et tout en, quand on sait que ces accords sont en général arrachés à coups de promesses, à coups de billets de banque, et c'était, on a eu les coulisses aussi de ce qui s'est passé à Rome par les médias. Mmh. Et ça, je vous laisse aller lire. Mais le, je suis sceptique pour la seconde raison que le contenu de l'accord ne corrige pas les écueils du passé. Pourquoi? Parce que, un, l'accord est signé entre le gouvernement et les factions rebelles. Alors, nous, sur le terrain, on est informé que les factions rebelles se battent entre elles. Séléka et Antibaraka. C'est ce qui s'est passé encore hier à Bria. Oui. C'est ce qui se passe à Bangazou. C'est ce qui se passe à Lindao. C'est ce qui se passe partout. Et puis, les forces rebelles se permettent même de s'en prendre aux forces onusiennes qui brillent par leur impertinence sur le terrain. Alors, on n'a jamais entendu que un ministre du gouvernement, un maire, un sous-préfet, un préfet. Non, on n'a jamais entendu que le gouvernement a été attaqué. Alors, on nous dit maintenant que l'accord est entre le gouvernement et les factions rebelles. Ça, je vous laisse apprécier la suite. Alors, moi, à mon avis, ce qui devait se passer, c'est quoi? C'est qu'on devait impliquer direct. Et bon, pourquoi je le dis, c'est ce troisième argument. Le texte qui est signé à Rome ne comporte aucune mesure contraignante. Oui. Aucune. Comme je parle du passé. Les gens sont laissés libres à leur entendement. Ils vont accepter eux-mêmes de cesser le feu et adhérer librement au processus DDL. Et comme vous le dites, le texte permet même de dire de revenir sur les sanctions des Nations Unies contre les chefs rebelles. Non, je dis, ce sont les chefs de rebelles.
Et justement, Timoléo, on sent votre colère. Hein, on vous écoutant, on l'entend. Justement, le fait que le gouvernement s'engage à entamer une consultation auprès des Nations Unies pour essayer de lever les sanctions qui visent certains responsables de ces groupes, ça signifie quoi? Qu'à terme, il va y avoir une amnistie?
C'est en fait
une amnistie qui ne dit pas son nom?
Qui est indirectement déclaré, et il semble que c'est sur demande de M. Noureddine depuis là où il est. Non, moi je pense que ce sont ces chefs rebelles qui nous mènent, qui nous tournent ici dans la farine, comme on dit ici dans le Fokoti Gozo, en langue sango ici. C'est eux qu'il fallait faire venir quelque part, je ne sais pas où, les mettre sur la table, qu'ils signent eux-mêmes ces accords-là, oui. Et qu'ils prennent la responsabilité de les faire exécuter. Quand sans cela, on doit s'en prendre directement à eux, faire décoller l'avant pour aller sur une délai, pour aller sur
c'est vrai que les responsables n'ont pas fait le déplacement à Rome, ils étaient représentés sur place, 13 et 14 groupes, hein. Il y a le 14e groupe qui n'a pas fait le déplacement pour des raisons techniques, visiblement c'était un peu compliqué pour le groupe 3R de faire le déplacement en Italie. 33 9 693 693 70, bonjour Prince.
Oui, bonjour, Juan.
Vous êtes plutôt optimiste, vous, contrairement aux deux premiers auditeurs.
Oui, personnellement, je suis optimiste. Je comprends en tout cas le scepticisme de mes prédécesseurs. Tellement que la situation que nous avons traversée a suscité beaucoup de médiations, beaucoup de négociations. Mon prédécesseur a essayé de rappeler tout ça tout à l'heure. Mais je pense qu'il n'y aura que par la négociation quand même que nous parviendrons à trouver la voie de la solution par rapport à cette crise-là qui ne continue, en tout cas qu'à durer.
Oui. Enfin, excusez-moi, Prince, j'entends bien, mais Timothée n'avait-il pas raison lorsqu'il disait, mais combien de médiations encore il y a eu? Il a cité le forum de Brazzaville, le forum à Libreville, un forum à Bangui, maintenant cette médiation à Rome. Il va falloir combien de processus de paix pour mettre fin à cette crise?
Bon, peut-être énième négociation, d'accord, Juan. Mais je pense qu'on ne peut pas d'emblée comme ça tout refuser. On ne peut pas tout rejeter pour dire que ça ne va pas marcher. Non, on peut espérer que ça pourrait marcher. C'est vrai, le cadre est totalement différent. Cette fois-ci, il n'y a pas de considérations, j'allais dire, un peu stratégiques et politico derrière. C'est une médiation entamée par l'Église qui a eu lieu à Rome. Et on les a fait venir. Ils sont d'accord. Le gouvernement également est d'accord à signer des accords. Mais maintenant, nous attendons. Quel est le chronogramme qui va sortir? Quels sont les tenants et les aboutissants de cet accord-là qui vient à peine d'être signé? C'est à ce moment-là que je pense qu'on pourra juger si cette négociation a été un échec ou non. Oui. Mais pour l'instant, je comprends le scepticisme de mes compatriotes, mais osons quand même croire que cette fois-ci, ça pourrait changer. C'est ça, en tout cas, mon point de vue.
Bon, en tout cas, vous êtes optimiste. C'est vrai qu'il n'y a pas de chronogramme, pas de calendrier. Et on peut espérer, mais les faits sont là pour démontrer que l'accord n'est pas respecté, puisqu'au lendemain de la signature, je le rappelle, 40 personnes ont été tuées dans des affrontements dans la ville de Bria. Ces affrontements qui se sont déroulés tout au long de la journée d'hier dans le centre du pays. 33 9 693 693 70. Un détour d'abord tout de même sur la page Facebook de l'émission. Alain nous dit qu'il est fallacieux de croire en la paix sur la base d'un accord qui est loin d'être contraignant et dont l'application dépend de la bonne foi des parties signataires. Et c'est bien ça, la difficulté, c'est que cet accord reste extrêmement fragile puisqu'il dépend finalement de la bonne volonté des groupes armés. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Bienvenue. Comment avez-vous réagi en apprenant la signature de cet accord de paix ?
Eh bien, d'abord, je salue les efforts de Saint-Étienne-du-Rhin depuis le début des crises en Centrafrique. Et malheureusement, je suis obligé de vous dire encore une fois que cet accord est un accord de trop, un accord pour rien. D'abord parce que il n'y a pas la guerre entre l'État centrafricain et les rebelles. En ce moment, ce sont des rebelles qui se battent entre eux. Alors, cette histoire d'accord entre le gouvernement et les rebelles, c'est le feu. Moi, je ne sais pas d'où ça vient.
Alors, vous dites qu'il n'y a pas la guerre, excusez-moi, entre les groupes rebelles et les forces centrafricaines et le gouvernement centrafricain. En tout cas, une chose est sûre, c'est que jusqu'à présent, les groupes rebelles ne reconnaissaient pas la légitimité des autorités élues lors des élections législatives et présidentielles de l'année dernière. Donc là, elles, officiellement, en tout cas sur le papier, elles reconnaissent la légitimité, notamment du président de la République. C'est une avancée.
Oui, mais quand vous reconnaissez l'autorité des élus, vous devez les respecter. Alors c'est pour ça qu'à mon avis, moi je pense qu'il faut passer un désarmement forcé de ces rebelles. Il faut arrêter les principaux chefs et puis les traduire en justice. Évidemment, vous me direz que le gouvernement n'a pas les moyens. Mais je vous rappelle que l'État a des accords militaires de coopération avec certains États, par exemple la France, l'Angola, par exemple l'Afrique du Sud. On peut se passer de la MINUSCA. Ils ont tellement été passifs qu'ils ont permis à ces troupes, à ces groupes armés de se réarmer et de monter en puissance.
Alors, donc ça veut dire quoi? Attendez, j'essaye d'aller un peu plus loin dans la réflexion, Sébastien. Vous êtes en train de nous dire la Centrafrique peut se passer des 12 000 casques bleus déployés sur le terrain. Vous avez cité la France, c'est-à-dire que d'une certaine façon, vous souhaiteriez, vous, en tant que Centrafricain, le retour de la force Sangaris?
Avant de souhaiter, je regrette même le départ de la force Sangaris. Parce que quand en 2014, vous avez vu, quand avec les actions vigoureuses qu'ils ont commencé à mener, les rebelles ont commencé à se retirer. Malheureusement, l'État français étant souverain, il a retiré les Français. Et vous avez vu ce qui s'est suivi. Jusqu'à maintenant, ce sont les rebelles qui occupent les trois quarts du territoire centrafricain. Donc, on peut se passer des troupes de la MINUSCA parce qu'ils sont complices, à mon avis. Alors, nous avons des accords de coopération militaire. Il va falloir que le gouvernement réactive ces accords et puis qu'on fasse intervenir des troupes pour les arrêter et pour les mettre hors d'état de nuire.
Oui. Enfin, lorsqu'il y a des accords de coopération, c'est généralement... alors, je ne connais pas l'accord entre la France et la Centrafrique, mais c'est généralement lorsque le pays est agressé par une force étrangère. Bon, voilà. Je ne sais pas si c'est le cas en ce moment sur le terrain centrafricain. Merci Sébastien de nous avoir rappelé. Un détour sur la page Facebook de l'émission. Par exemple, Olivier nous dit « Négociation sur la levée des sanctions contre les chefs des groupes armés, réinsertion dans la vie professionnelle, réhabilitation des militaires engagés dans les groupes armés. Cet accord ne fait aucune mention de la justice. » Quid des victimes de toute cette barbarie, s'interroge Olivier. Cet accord n'est ni plus ni moins qu'une amnistie. Vive l'impunité, nous dit cet auditeur avec plusieurs points de suspension pour conclure son message. Bonjour Théophraste.
Bonjour Juan Gomez.
Vous êtes à Bangui. Vous partagez l'analyse que je viens de citer à l'instant, celle d'Olivier, sur l'impunité qui ne dit pas son nom, l'amnistie finalement qu'il faut, que souhaiteraient mettre en place les autorités?
Ben oui, je me mets dans la lignée dans le même ordre d'idée que mon prédécesseur. Vous savez ce que j'ai lu hier sur les réseaux sociaux, le contenu même de l'accord qu'ils ont on a intitulé accord de paix dit immédiat.
Oui, alors une précision, cet accord vous pouvez le consulter d'ailleurs sur le site rfi.fr sur les articles consacrés à la Centrafrique, vous pouvez avoir un accès direct justement au contenu de cet accord politique pour la paix en République centrafricaine. Voilà son nom.
Voilà. Donc pour comparer à la litanie des accords qui ont été signés par rapport à la crise centrafricaine, Je vois que les choses sont pareilles. Cesser le feu, lever des barrières illégales sur le territoire, transformation des groupes rebelles en partis politiques. Mais c'est le dernier point là qui me met très mal à l'aise. Et voilà, fondamentalement, il y a une différence entre l'objectif de la création d'un parti politique et la création d'une rébellion.
Mmh. Donc, enfin, par exemple, tout à l'heure, un auditeur faisait référence aux FARC en Colombie. Les FARC, après des années de négociations, ont obtenu, alors après, il faut remplir un certain nombre de critères, évidemment, mais la possibilité de devenir un parti politique.
Ben, il faut aussi savoir, Juan Gomez, ça a duré combien de temps? Les FARC ont fait combien d'exactions? Vous voulez à ce qu'on puisse atteindre le chiffre ou le nombre de la tuerie des FARC pour qu'on puisse cesser avec les ces multiples groupes rébellions qui se créent, qui sortent comme des champions. Imaginez-vous, on cherche maintenant on cherchera à voir le nom de groupe qui est en train de tuer à Bria, alors que non. Imaginez-moi, la solution est simple. Moi, je ne rentrerai pas beaucoup plus dans les critiques, dans les observations. On en a tant fait. Quand vous lisez le contenu de ce document, c'est déjà une amnistie qui ne dit pas son nom. Apparemment, c'est une sorte de prime à la tuerie. Pour moi, que la communauté internationale n'a qu'à lever l'embargo sur la République centrafricaine, confiant la responsabilité aux forces armées centrafricaines. Ce qui serait fait, c'est quoi?
Alors, on va aller un peu droit au but, Théophras, hein, parce que je vous enchaînez les idées les unes après les autres. Il y a beaucoup de monde qui souhaite prendre la parole. Ce que vous dites, lever de l'embargo sur les armes. C'est-à-dire que jusqu'à présent, depuis plusieurs années, je n'ai pas le nombre d'années en tête, mais depuis plusieurs années, la Centrafrique ne peut plus acheter des armes pour équiper son armée. Et vous plaidez donc pour la levée de cet embargo. Je sais que le président centrafricain a déjà eu l'occasion à l'ONU de plaider cette cause hein, pour pouvoir justement donner les moyens à l'armée centrafricaine, au FACA, de faire face justement aux différents groupes armés. Merci à vous, Théophraste. Il nous reste 3 minutes. Samuel, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour, Frédéric.
Est-ce que l'accord signé lundi à Rome est déjà caduque quand on voit la situation sur le terrain et notamment le nombre de morts hier dans la ville de Bria?
Non, moi je ne dirais pas cela. Je crois toujours dans ces accords parce que il y a des avancées. Tout le monde reconnaît que les Centrafricains sont fatigués de cette guerre. Les groupes armés également sont fatigués de cette guerre. Une guerre qui nous a été importée de l'extérieur. Ils sont fatigués de ça et nous croyons en cela. Moi je crois en ce qu'ils disent. Cet accord est le fruit d'un travail dur et sincère. Je ne pense pas que les gens puissent se balader comme ça pour juste faire plaisir. Mais quand ils parlent de la sincérité,
Excusez-moi, on peut douter tout de même de la sincérité de certains groupes rebelles au regard de la situation à Bria, par exemple, des affrontements hier au lendemain de la signature même, c'est-à-dire que on ne respecte pas la parole donnée, ou en tout cas la signature en bas du document à Rome.
J'ai écouté ce que Abdoulaye Hissène a dit. Il a dit que il allait se représenter encore, refaire encore ce qu'il a fait. Mais moi, je pense que c'est un test pour voir ce que la MINUSCA ferait. Parce que dans les accords, il est dit que tout se ferait sous le contrôle de la communauté internationale. Donc, j'entends par la MINUSCA. Maintenant, c'est tout le problème. Est-ce que la MINUSCA se décidera au moins à faire ce pour lequel elle est ici? Si la MINUSCA faisait réellement son travail, peut-être qu'on n'en serait pas là. Maintenant, c'est sous le contrôle de ces forces-là.
Bien.
Maintenant, je crois que ces forces nous aideraient à mettre en pratique ces accords, à les faire observer. Mmh.
Bon, en tout cas, certains pointent du doigt qu'il n'y a aucun calendrier dans cet accord. Donc voilà, il faut dans les prochains mois. Voilà, la seule référence dans le temps que j'ai trouvé dans cet accord, c'est dans les prochains mois. Donc ça veut tout et rien dire. On aura évidemment l'occasion d'en reparler ensemble. Merci à tous de vos appels, de votre fidélité. Demain, nous parlerons du dossier Thomas Sankara, car les résultats de la contre-expertise ADN réalisée sur les restes présumés de l'ancien président burkinabé Mugabe, eh bien ces résultats n'ont pas permis de déterminer l'identité de la personne qui était enterrée dans la tombe présentée depuis une trentaine d'années comme étant celle de Thomas Sankara. Autrement dit, le mystère demeure encore et toujours autour du corps de l'ancien président assassiné en 87 lors d'un coup d'État. Connaîtra-t-on un jour la vérité? Nous en parlerons évidemment demain. Merci à tous, bonne journée.
Vous avez suivi Appel sur l'actualité avec Orange Money, solution de transfert d'argent accessible depuis votre mobile au dièse 144 dièse.
Bonjour.